la terre. Et par notre côté, il y a des cercles qui volent dans l'air. Moi, je vois des pièces de monnaie. L'argent doit se spiritualiser. On ne peut plus continuer à vivre avec cet argent sale qui vit. La monnaie, le système économique doit changer. Ce n'est pas possible qu'on vive dans le terrorisme économique comme ça.
Oui, mais on a les clés de ce changement, on les a tous. Les vertus, on les connaît, c'est toujours les mêmes. D'honnêteté, de courage, de justice, c'est toujours les mêmes vertus. Elles ne sont pas différentes,
non. C'est pas les mêmes, parce que les vertus, les courage, on fait ses besoins sur ces concepts. Ce sont des faux concepts.
Tu crois pas à l'honnêteté?
Non, non, ça n'existe pas.
Ça n'existe pas.
Mais on vit une société de voleurs. Quand il fait un contrat, celui qui signe le contrat doit se battre pour qu'on ne l'escroque pas. Et si tu as signé un contrat, donc on peut te voler. La société vit s'il les vole. Alors on ne peut pas dire ne pas voler, ne pas tuer, tout ça, c'est pas vrai.
On ne peut pas opposer l'honnêteté à la malhonnêteté?
Non, ça n'existe pas, il n'y a pas de s'opposer. Ce qu'il faut opposer, c'est un cœur humain qui sache qu'il n'y a pas de paradis, qui sache qu'on est mortel, qu'on a un temps très limité, mais qu'on a une continuation. Je m'aime à moi-même, et comme je m'aime à moi-même, j'aime l'autre, mais en acceptant que l'autre c'est un autre, et qu'il vient après moi.
Donc, mais ça c'est dans les évangiles, Alessandro, c'est pas nouveau.
Oui, mais c'est des évangiles qui ont été mal interprétés pendant 11 siècles par des curés qui sont masturbés pendant 8 heures par jour. Oui,
ils ont peut-être un problème sexuel, les curés.
Oui, oui, alors, il faut que ça s'arrête aussi, parce qu'on ne peut pas concevoir le monde sans la femme.
Les curés à poil. Donc il faudrait qu'on se détende un petit peu, on met un petit peu de musique, Alessandro.
Si tu veux, moi tu m'as invité, je parle.
D'accord. Mais non, mais c'est parfait, c'est génial. C'est Radio Ici et Maintenant, c'est sur 95.2, il y a même un numéro de téléphone, 01 45 75 44 44. Il doit y avoir de la musique à droite, la musique à droite.
Si tu veux, je suis plus doux, hein.
Non, c'est génial, c'est parfait, continue.
Ça va, comme
continue.
Ça.
Tel que tu es, et tu dis ce qu'on a envie d'entendre en plus, c'est agréable. C'est du bien, hein. Alessandro Jodorowsky, notre invité, c'est Fabien Wacky, il y a Marie qui est là également, qui va intervenir un peu plus tard, je pense, le professeur Jean-Jean qui arrive. Alessandro Jodorowsky, on va pas faire tout la biographie d'Alessandro Jodorowsky, c'est long, parce que ça commence sur la biographie, en tout cas, qu'on a trouvé, ça commence par Maurice Chevalier.
Oui, mais c'est pas long, c'est pas nécessaire ma biographie.
Non, hein.
Soyons anonymes. Ouais, l'art sacré est anonyme, le tarot est anonyme.
Bon, en quelques mots quand même, pour les gens qui entendent, ils se disent qu'est-ce que c'est que cet allumé qui parle. Quel âge as-tu?
72.
72. Comment on peut te définir artiste
Artiste polyvalent.
Artiste polyvalent, voilà.
Ça serait bon.
D'accord.
Mais aussi c'est thérapie.
Et thérapeute.
Parce que j'ai fait un livre là qui s'appelle Le théâtre de la guérison, que c'est une psychanalyse nouvelle que j'ai baptisé psychomagie, etc. Mais c'est pas ça, non? Parlons de ce thème si sympathique que c'est la réalité.
Simplement, quand on clique dans un moteur de recherche sur Jodorowsky, on a 291 sites ou pages, sites où on parle de toi.
Oui.
Et aussi bien des films, moi j'en ai vu certains.
La Montagne Sacrée, Santa Sangre, voilà. Comme ça.
Tosque aussi, non?
Tosque aussi, voilà. Fait, oui.
Et puis, quelques scénarios?
Bande dessinée, L'Incal, La Case de Métavaro. J'ai la main blanche.
J'avais entendu dire que le cinquième élément, c'était une bande dessinée qui existait bien avant le film de Besson.
Bien sûr qu'il l'a pris. Il a bien piqué la
chose. Volé.
Il a volé. Peut-être il ira en procès, j'espère.
Oui, c'est pas toi qui t'en occupe.
Non, je vais pas. Pour moi, ce sont des hommages, ça va. mais la guerre des étoiles et tout ça. J'ai fait un projet qui s'appelait Dune, où j'ai créé le groupe avec Moebius, Giger, qui après a fait les monstres des aliens, Foss, qui a fait les scripts et tout ça. Et les États-Unis ont pris les scripts et après il est sorti tous les films de science-fiction que vous connaissez avec l'équipe que j'avais formée. Hein.
Donc, tu veux dire les guerres des étoiles, l'Empire contre-attaque,
oui,
les Jedi et tout ça?
Tout ça.
Sorti de ce petit groupe.
De ce petit groupe qu'on a fait en France, comme d'habitude. On fait les choses en France et les États-Unis
s'en occupent
après.
Mais c'est pas étonnant parce que c'est des scénarios magnifiques. Et ce qui est étonnant, c'est que des Américains pensaient faire des scénarios pareils. Mais ça a été fait dans le respect quand même de l'esprit du scénario de départ.
Oui, mais toujours ils font des Américanades.
Mm.
Non, parce que quand je suis allé, on voulait mettre les métabarons en scène, la Universal. Alors, j'ai fait le script, on m'a demandé 50 copies de le script. J'ai dit, pourquoi 50? On m'a dit, pour les 50 idiots. Comment Jean Cantillon? Mais oui, vous savez, c'est dans le cinéma, c'est que les propriétaires, c'est les distributeurs, c'est le public. Donc, le distributeur a une maîtresse, ou a un petit amant, s'il est PD, ou des choses comme ça. Donc, il va les lire, et comme ils ont lu un petit livre qui copie Aristote, ils savent la formule, donc ils vont juger. Et après, si les 50, ils disent approuve, parce qu'ils ont tout compris, on les fait. S'ils n'ont pas compris, il va falloir changer pour que les idiots comprennent.
C'est comme dans les banques, finalement, quand on demande un crédit, ça passe par un comité
d'idiots. C'est une américanade.
Mais ils sont payés pour ça. Oui. Mais après, on est sûr que tous les idiots qui vont au cinéma comprennent le film, non? Ça sert pas à ça.
Parfois, les idiots comprennent le film, et parfois, les idiots ne sont pas si idiots, respectent. Oui, mais... Ils vont s'amuser comme ils fument une cigarette ou... Les cigarettes de marijuana, n'importe quoi, ils s'amusent, mais l'âme reste vide, non? Ouais. Et quand le cœur est vide, on a un certain malaise après.
Ouais.
On sort un peu malade.
Mais moi, je trouve que c'est des scénarios qui ont été très utiles à tous, parce qu'ils amènent des réflexions, enfin des éléments intéressants dans la réflexion de chacun, dans les questions, dans la façon de voir le monde. Parce que le cinéma est assez violent comme art, c'est-à-dire qu'il impose des images. C'est pas comme la lecture où on crée des images, les personnages prennent forme devant soi, se matérialisent. Là, tout est matérialisé. Oui. C'est de la pornographie, le cinéma.
Quelque part, mais c'est un art. C'était un art, mais c'est tellement cher. Donc, ça a devenu une industrie, très peu de films d'auteur, et il faut satisfaire la grande prostituée que c'est la télévision. Il y a aujourd'hui, j'ai passé un mauvais moment parce que on m'a fait écrire un scénario pour un film. Après, il m'a dit on a 80% de budget, mais il y a la télé qui va mettre de l'argent, donc il faut tout adoucir. On va, tout ce qui est fort, on va l'enlever parce que ça ne peut pas passer à la télé.
Ça ne rentre pas dans le petit écran.
Ça ne rentre pas
dans la petite boîte.
Alors, il y a la censure. La censure télé existe. Et c'est la censure de la médiocrité.
Oui, mais alors tu disais juste avant, il faut que la médiocrité prenne le pouvoir.
Mais il faut l'élever, il faut la monter, pas qu'il prenne le pouvoir. Il faut faire... Mais écoute, dans les premières interventions que j'ai faites, il semblait un peu allumé. Mais c'était l'enthousiasme de pouvoir dire ces choses qui llegaient dans mon âme. Hein. Mm. Et maintenant, il te fallait répliquer. Mais...
D'accord. Alors, il y a une question d'un auditeur qui demande comment font les aveugles pour lire le tarot. Est-ce qu'il existe des tarots en braille?
Les aveugles, on peut les raconter les tarots en aveugle. Et il peut l'imaginer. C'est-à-dire que si j'avais un aveugle à côté de moi, il lui dirait, écoute, la maison Dieu, c'est une tour qui est à 7 hauteurs, en centimètres, après il y a des personnages habillés avec ses couleurs, c'est un rectangle, et je l'expliquerai avec l'explication, s'il mémorise mes 78 explications, il pourrait lire le tarot s'il demande au consultant quelle carte a tiré.
Alors, pourquoi pas imaginer à ce moment-là un CD pour les non-voyants, avec les 78, tu sais que sur un CD, on peut choisir le numéro, donc on pourrait très bien imaginer les 78, on n'aurait plus qu'à appuyer sur le bouton du numéro, écoute, et on aurait ton texte.
Non, ça c'est une question de piège.
C'est une question de piège, c'est une proposition pour une production future.
Non, je vais te dire, les tarots, c'est le premier langage optique qu'a l'humanité. Les alphabets sacrés ont 20 lettres. Avec ces 26 lettres, on a écrit les Quichotte, la Bible et tout le reste. Les tarots ont 22 cartes principales qui sont en alphabet. Alors, il y a des infinites possibilités de mélanger. On peut faire des traités complets, mais optiques. C'est un langage optique, c'est pas un langage pour les aveugles. De la même façon que les langages parlés, articulés, c'est pas pour les sourds. N'est-ce pas? Mais on a inventé, pour que les sourds comprennent, un langage des mains, des symboles des mains. Alors, pour que les aveugles comprennent le tarot, il ne faut pas le tarot, il faut inventer un langage qui les traduise en son, par exemple. Sonore, mais pas le tarot lui-même. Voilà la question.
Il faudrait faire un tarot sonore. Je tourne vers un ami musicien qui est là. Ça, c'est un beau projet. Moi, j'aimerais bien relever le défi, parce que c'est un travail d'une vie, ça. Faire un tarot sonore. Il faut imaginer un son pour chaque carte.
Quand tu me demandes le tarot pour les aveugles, je te dis Rembrandt pour les aveugles, et Picasso pour les aveugles, et Goya pour les aveugles. Comment tu fais? Pas de réponse.
Voilà, ça c'est la réponse à l'auditeur, il n'y a pas de réponse, et puis arrêtez de nous poser des questions comme ça. 01-45-75-44-44, vous pouvez quand même réessayer.
Mais j'étais pour te dire qu'il faut un changement mental. Des lois très simples. Par exemple, quand moi je te parle de ça, j'ai quatre principes essentiels qui me guident à moi. C'est ce que je dis, c'est jusqu'à un certain point. De, selon ce que je sais, parce qu'on ne peut pas, jusqu'à un certain point, on ne peut pas dire tout complet. Selon ce que je sais, c'est-à-dire que je ne peux pas savoir toute la vérité, à risque de me tromper. parce qu'il n'y a pas la vérité infuse. Et si tu le veux bien, si tu veux bien équilibrer ton langage au mien, parce que si je dis par exemple masse, tu peux penser à la masse qui frappe ou à la masse cosmique. Et je peux parler de massé, de... C'est qu'il faut se mettre d'accord avec les termes. Alors si on le veut bien, on se comprend. On se met d'accord sur les termes. Quatre principes.
Est-ce qu'on a une clé ou des clés ce soir à disposition pour changer ou donner les possibilités de changer le mental de cette de ce peuple que tu disais médiocre tout à l'heure?
J'ai une fois inventé une histoire d'une femme, d'une vieille sorcière qui vendait des lampes dans une ville qui était tout le temps dans l'obscurité et tout le monde était ravi. Donc quelqu'un achetait une lampe, il était allé sur lui et il allumait son appartement. Mais c'était la pourriture, la saleté, les rats étaient partout. Alors elle a dit, mais c'est incriminant, cette vieille sorcière, regarde ce qu'elle m'a fait. Mais non, elle a dit la sorcière, je ne t'ai rien fait, je te montré comment tu vivais. Maintenant, nettoie ton appartement et tu vas vivre bien. Alors, conseil, le mental, c'est pas les phrases, les mots, l'intellect. Le mental, c'est une énergie spirituelle qui soutient les mots. Il faut nettoyer tout mot, se méfier de toute phrase, de tout concept, nettoyer le cerveau et arriver à s'asseoir et ne pas penser pendant une minute, deux minutes, cinq minutes. Arrêter la rivière de penser. Quand on est capable de faire ça, qui n'est pas naturel, on doit de nouveau s'asseoir et laisser venir les pensées, mais pas s'identifier, pas s'accrocher aux pensées. Je ne suis pas ce que je pense, je ne suis pas mes mots. Ça, c'est la première chose que faire. Je ne suis pas ma voiture, je ne suis pas ma quatre chevaux, je ne suis pas ma femme, je ne suis pas mon manteau de fourrure. Hein? Je ne suis pas ce que j'ai, je suis ce que je suis. La première loi à apprendre, n'est-ce pas?
Alors, où places-tu le nom? Le nom d'Alessandro Jodorowsky, oui, ou Fabien Wacky, où places-tu? Est-ce que on peut dire je suis Alessandro Jodorowsky ou je suis Fabien Wacky?
Belle question. J'ai toujours dit que je ne suis pas un chien. Donc je n'ai pas de nom. Il y a la personnalité qui m'a formé dans ma famille, déjà dans le ventre de ma mère, on m'a passé la névrose parentale, la névrose de grand-parent, la névrose d'arrière-grand-parent, l'école m'a passé sa névrose, la société m'a passé sa névrose, l'histoire malade m'a passé sa névrose. Donc je ne suis pas qui je suis, je porte un masque, je porte un carcan, je suis coincé, alors je suis mutilé. Alors, mon premier travail, c'est arriver à moi-même. Arriver à moi et me découvrir. Si je peux me découvrir qui je suis en dehors du nom, parce que les noms sont chargés de, parfois, de malédiction et de proposition de destin. Si je m'appelle Christian, si je m'appelle Emmanuel, si je m'appelle Jésus, je suis. Et j'ai une mère avec père absent, attention à ne pas mourir d'un cancer à 33 ans pour que me demande la perfection du Christ. Si je m'appelle René et je suis né après un enfant mort, je ne serai plus jamais moi-même parce que je porte le nom de cet enfant mort qui doit renaître en moi. Si mon père, je suis femme, me met le nom de sa première fiancée, je suis foutu parce que moi, sa fille, je tombe tout de suite dans une relation incestueuse et où pour toute ma vie, je suis la femme parfaite, la fiancée de mon père. Si maman me met le nom de mon grand-père, je me rends compte qu'il ne m'aime pas à moi, qu'il est resté coincé avec son père et que mon idéal, c'est mon grand-père. Et toute ma vie, je dois être mon grand-père. Alors, il faut prendre son nom, travailler son nom comme un mantra, savez, comme un son sacré, se détacher de lui et le voir au loin, pas être ça, sinon le mettre au loin. Je ne suis pas ça, je n'ai pas de nom. Quand Moïse arrive dans le buisson ardent, il dit à Dieu, dis-moi ton nom, il dit, je suis qui je suis. Il n'y a pas de nom. Dans notre Père, que ton nom soit sanctifié, lequel? Il n'y a pas de nom. Que tu comprends? L'être n'a pas de nom. On ne peut pas le définir.
C'est ce que les juifs disent de Dieu. Ce que les grands mystiques disent de Dieu. Dieu n'a pas de nom. On ne peut même pas le nommer. Chez les juifs notamment. Alors est-ce qu'on peut appliquer ça aussi à l'homme? Est-ce que Dieu n'a pas crié le nom des hommes?
Premièrement, les religieux sont des fous. Adorer un Dieu qui appartient à une seule race, c'est de la folie. Dans la Torah, pourquoi les juifs sont la race élue? Ils sont la race élue parce que ce sont des juifs qui ont écrit les livres. Après les Arabes écrivent le Coran, donc les Arabes sont la race élue. Et il faut tuer tous les Juifs. Après les Tibétains, les dieux sont Tibétains. Hein? Vont venir les Chiliens et la race élue vont écrire dans le livre sacré. La race élue serait les Chiliens.
Non, ça c'est pas une bonne idée.
Hein. Alors, il faut se rendre compte que les livres ne sont pas la vérité et qu'aucun livre est écrit pour une chose qu'on appelle Dieu. Dieu ne peut pas écrire des livres, ni ne peut faire des tableaux comme la Vierge de Guadalupe, qui dit que Dieu s'est à faire un tableau. On n'est pas fou.
Alessandro, on n'est pas fou, mais il y a des livres miroirs, comme les tarots.
Oui, mais je ne dis pas que les tarots ont été faits par Dieu.
Non. Il y a des livres miroirs.
Oui, alors, les livres miroirs, si je les fais en miroir, si je prends un tarot et l'utilise pour voir le futur, je suis un charlatan, un escroc. Parce que le futur, c'est le passé qui se répète dans le futur. Simplement, on est conditionné. Si tu dis, si tu fais ça, tu vas rater dans ta vie, on te dit, dans ta vie, tu rates. C'est ça. Écoute, voilà la différence. Il y a un enfant qui s'équilibre au bord de Anna, va par une corde, non? Et si tu l'écris, fais attention, ne tombe pas. L'enfant tombe, parce que tu l'as conditionné. Ce que tu dois l'écrire, c'est conserve ton équilibre toujours. Il conservera l'équilibre. Donc, dans un livre sacré, tu peux tirer ou de projection négative, destructeur pour l'humanité, ce que les religions maintenant sont en train de faire partout. Parce que sont des mauvaises interprétations des livres sacrés qui sont ambiguës comme les tarots, comme les rêves. Ou tu peux tirer des explications complètement positives pro l'humanité, pro notre planète, pro l'univers. D'accord?
Alors, on revient à ce qu'on disait avant. C'est enfin une petite discussion avec Dieu. Nous n'avons pas de nom.
Nous n'avons pas de nom. Et même, je vais te dire une chose plus bizarre, nous n'avons pas d'âge. C'est lui qui te parle là, c'est pas un vieillard de 72 ans.
Non, mais ça
c'est
se voit,
un esprit,
ça.
C'est un esprit qui n'a pas d'âge. Et nous n'avons pas de sexe. Il n'y a pas ici un mâle en train de parler avec une grosse bite qui se la fait allonger 3 cm dans une opération. Et qui s'est injecté sa propre graisse vivante dans là et s'est fait une trompe en forme. C'est pas ça. C'est un être. L'âme n'a pas de sexe. C'est un androgyne, l'âme. Il faut savoir ça, c'est ça. Après, quand, si Dieu m'a donné des organes, quand une femme apparaît, l'organe s'élève. Mais quand la femme précise apparaît, quand elle s'en va, c'est plus un homme qui est, c'est un esprit qui est là. Voilà, c'est tout, c'est simple.
Ouais, mais alors moi je comprends pas, parce que tu dis, tu parles de Dieu d'une manière, on a l'impression que tu le jettes comme ça avec l'eau du bain.
Oui.
Et en même temps, tu fais appel à Dieu pour dire quand Dieu m'a donné des organes, et tu parles de l'âme.
Oui.
Tous ces concepts-là, sont des concepts...
Ce sont des concepts utiles. Bouddha, ce qu'on appelle Bouddha a dit, vérité c'est ce qui est utile. Alors pour parler, parfois on prend de vérité utile. On se demande pas si c'est vrai ou pas vrai, sinon ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ce qu'on appelle Dieu, c'est l'impensable, l'inimaginable. Ça, c'est le Dieu. Et n'est pas dehors toi, c'est à l'intérieur de toi. Faut pas le chercher dehors. Le prêtre, c'est toi-même, c'est ta conscience. Tu n'as pas cherché de prêtre. Tous les prêtres sont des charlatans. Pour le Dieu, on n'a pas besoin de médiateur. C'est là, ça c'est le mystique actuel. Ça c'est le Dieu actuel. N'appartient pas à une race, n'appartient pas à une religion, il n'est pas arabe, il n'est pas juif, il n'est pas occidental, il n'est pas sud-américain, ça n'existe pas, c'est l'impensable. C'est à nous tous.
Est-ce qu'il y a quand même un tronc commun? Est-ce qu'il y a quand même des données qui nous appartiennent, sur lesquelles on peut s'appuyer?
Oui.
Comme être un être humain.
Un être humain, oui, mais la tradition, il faut la brûler, parce que la tradition, c'est source de névrose. Il y a beaucoup de siècles que la tradition nous transmet les neuroses. C'est pour ça qu'il dit imitation mentale, c'est absolument nécessaire aujourd'hui. Et c'est pas un allumé qui parle, c'est un être humain qui a une famille. Et qui se rend compte, si on continue à penser comme ça, on va détruire la planète, et ça suffit. On est plein d'idées folles, on est plein d'émotions folles, plein de désirs fous, plein de besoins folles. On n'a pas besoin de tout ça, il faut tout nettoyer. C'est le moment de tout nettoyer.
Qu'est-ce qu'on garde, Jodorowsky? Qu'est-ce qu'on garde? Parce que tout... Moi j'entends ton langage, mais j'imagine des gens qui entendent ça et qui disent, allez, youpi, on fait une grande partouze, mais non, j'en sais rien, tu parles de on n'a pas de sexe, il faut se libérer, il faut se libérer des concepts, il faut arrêter de penser qu'on a un nom, il faut foutre la tradition en l'air, qu'est-ce qu'on garde?
C'est comme une boîte à pression,
voilà,
comme l'être humain est à pression, si tu ouvres la boîte à pression, ça flotte, la fumée s'éclate. Mais l'être normal doit être ce qu'il est, c'est tout. On n'a rien à chercher. On est ce qu'on est. Il faut arriver à être ce que l'on est. Pas avec ce que nous a dit qu'on est. Il faut arriver à ce qu'on est. Tu n'es pas français. Tu es un être humain. qui n'est pas un public, il n'y a pas un public américain, il y a un public humain. Il n'y a pas de pensée nationale, on a des pensées humaines. On est une merveilleuse, incroyable, immortale race humaine. Les pays, ce sont des enfants qui vont grandir jusqu'à devenir planète. Ça, on le sait. Ça suffit. Les langages vont s'ouvrir comme des fleurs. Ils vont produire un jour la langage unique, qui ne sera pas l'anglais, ne sera pas l'espagnol. Sera un langage qu'on parlera tous. Et une autre chose.
Mais attends, il y a marqué dans la Bible, ça ne marche pas, il y a la tour de Babel et tout, c'est cassé la gueule. Hein.
Non, non, la tour de Babel ne s'est pas cassé la gueule.
C'est la maison de Dieu, la tour de Babel.
Non, je vais te raconter l'histoire de la tour de Babel tout de suite, dans 6 minutes, pour que tu comprennes. Parce que pour connaître les symboles, il faut y aller vers les symboles et les étudier. Il y a eu le déluge. Et toute la terre a resté après, prêt à être labourée. Parce qu'avec tout cet eau-là, c'était formidable. Mais personne l'a labouré. Tous les êtres humains ont décidé de faire une tour par amour pour arriver jusqu'à Dieu, parce qu'ils ont pensé que Dieu était à l'extérieur et là-haut. Mais Dieu était aussi intelligent qu'aujourd'hui, tu comprends, c'est impensable. Les gars devaient arriver au centre de cet univers énorme, à dire, pauvres êtres humains, vont construire une tour, vont jamais finir. Alors, il faut qu'ils les arrêtent. Il faut qu'ils changent, ils créent plusieurs langages pour qu'ils puissent pas se comprendre. Ils vont aller des tribus, ils vont faire des tribus, ils vont aller à tous les coins de la planète, vont labourer la terre et la terre sera un jardin. Il n'a tué personne, n'a envoyé aucun rayon, personne n'est mort, c'était pas violent, ils ne sont pas compris, ils ne pouvaient pas travailler ensemble, chacun est parti à son coin et a commencé à labourer la terre.
Mais aujourd'hui, on est devant le fait qu'on est à nouveau un seul village, on est à nouveau tous ensemble sur une terre à labourer, puisqu'avec les moyens d'information et les moyens rapides, les tribus disparaissent.
Non, on n'est pas dans un seul village, on est dans un seul écran de télévision. On est dans un écran, on n'est pas dans un village. Notre relation actuelle n'est pas humaine. Non, elle est électronique. Alors il faut descendre de l'électronisme à une relation matérielle dans le monde. Il faut descendre au monde tel qu'il est. C'est ça qu'il nous faut. Et c'est ça qu'on doit faire.
Descendre l'électronique dans le monde.
Oui.
On
oui,
en parle juste après ce disque. Ici et maintenant. Ouais, salut, ici et maintenant, bonsoir, il est 11h45, on vient d'arriver, on était super en retard. 01 45 75 44 44, et par chance, on a Alessandro Jodorowsky dans le studio avec nous, et le professeur Jean qui vient d'arriver, qui va s'asseoir là-bas, parce que j'ai pas envie d'avoir du bruit de mon côté ce soir. Et puis, il y a Marie également qui va s'asseoir là-bas, parce qu'en fait, l'émission, on a fait à trois, Alessandro. Il y a le professeur Jean, qui est pas du tout professeur.
C'est un prêtre ?
C'est pas un prêtre non plus, c'est un être humain. Et puis il y a...
Le professeur de quoi ?
Le professeur, c'est son nom.
Un professeur ?
Oui, c'est son nom. C'est son nom. Il s'appelle Alessandro, il s'appelle professeur.
Un bon nom.
C'est un beau nom, voilà, c'est lui. C'est le professeur Jean. Et moi, on l'appelle le professeur, hein, parce que c'est pas n'importe quel professeur. Il est très doué en, il est très doué en astrologie, Jean. Professeur, pardon. Il n'entend pas ce qu'on dit. Mettre l'électronique dans la matière, ça veut dire quoi?
Ça commence fort.
Ouais. Mais t'as raté le début ou quoi? T'as écouté en voiture?
Non, j'ai pas de voiture.
Bah écoute,
j'ai pas de radio.
Je te tais, t'écoutes alors. Okay. Tu vas essayer de te mettre au niveau.
Ok.
Je dois éclaircir les terrains dans lesquels on parle. Les mythes fondateurs, n'est-ce pas, naissent premièrement comme des rêves. Après, ce sont des poèmes et chansons. Après, on les écrit, ils font les livres sacrés. Ils vont fonder des civilisations. On ne peut pas s'attaquer à un mythe sacré ou à un livre sacré parce qu'on détruit la société. Mais on doit s'attaquer à les interprétations qu'on fait de cette mythe-là. Quand moi, je m'attaque à tout ça, je ne m'attaque pas aux livres sacrés. Ce sont des trésors incroyables. Je m'attaque aux interprétations qu'on fait. Ça, c'est la première...
Le premier est c'est important de le préciser.
C'est, je le précise. Ouais. Alors, dans cette... qu'est-ce que tu me demandes maintenant, dans ça?
Mettre l'électronique dans la matière. Tu sais, on n'est pas un village, on est un écran.
Un écran.
Prisonnier de l'électronique.
Parce que les images qu'on a du monde ne sont pas des images du monde, ce sont des représentations du monde. Alors, nous avons des représentations du monde, mais toute représentation d'un monde, c'est un choix de quelqu'un. Un choix d'une culture, un choix d'un regard. Je vais te donner... une représentation et je vais te donner une idée qui va te faire réagir pour que tu te rends compte que la vision de l'électronique ce sont des choix. Les Américains demandent à l'islam qu'il les rend l'Aden. N'est-ce pas? Ben l'Aden. Alors, je propose que l'islam rend Ben l'Aden aux Américains et que les Américains rendent Bush à l'islam. Et comme ça, c'est
les formidable. Les échanges comme à l'époque des espions.
Alors, avec l'ADN, on les juge d'un côté, et à Bush, on les juge de l'autre, et on est tout le monde content, tu vois. Parce que la vision que nous avons en Occident du monde, c'est notre vision occidentale des faits. La vision qu'il a à l'islam, c'est une autre vision. Tout ça à travers de ce écran. Mais personne parle personnellement. On ne va pas au terrain. On ne va pas examiner Afghanistan et se rendre compte que c'est un problème de transport du pétrole.
De pipeline, oui.
De pipeline. Mm. Et on ne se dit pas. Est-ce que quand on accepte l'huile noire, le diable, n'est-ce pas, ouais. Qu'on extrait de la terre et on ne change pas d'énergie.
Le diable, moi je ne dirais pas ça, je dirais que c'est du cadavre en décomposition, ouais, le pétrole. On brûle des cadavres.
Mais pourquoi on ne change pas d'énergie? Pourquoi tout l'être humain, la planète entière, ne se met à chercher une source d'énergie qui n'empoisonne pas la planète?
Alessandro, j'ai une bonne nouvelle pour toi.
Ah, c'est bon.
Les bus qui roulent à Reykjavik, Reykjavik est la capitale de l'Islande, comme tout le monde le sait, rouleront à partir du début de l'année prochaine à l'hydrogène, c'est-à-dire à l'eau. Alors, c'est vrai que pour faire de l'hydrogène, il faut prendre de l'eau et puis mettre de l'électricité dedans. Et une fois qu'on a chargé cette eau en électricité suffisamment, l'oxygène disparaît, il ne reste plus que l'hydrogène. Et cet hydrogène devient un explosif extrêmement puissant. Et ce qui sort des gaz d'échappement des moteurs hydrogène, c'est de l'eau, c'est de la vapeur. Ouais. Donc, on risque d'avoir des villes un peu plus humides. Voilà, c'est
non, mais il faut trouver une autre.
Elle existe. Ce que je veux te dire, c'est qu'elle existe. Oui, il ne faut pas la trouver. Parce que ça fait 30 ans qu'on se dit, ah, le jour on aura trouvé. On a trouvé. Il y a le moteur à air comprimé également qui existe,
c'est ça.
Et il y a le moteur à eau qui existe. Ouais. Donc aujourd'hui, il faut que tout le monde se lève, et on prend un risque en disant ça. Moi, je prends un plus grand risque que toi, parce que je suis plus jeune que toi. Ouais. En disant que arrêtons le pétrole.
Ouais. C'est ça que j'ai dit.
Parlons d'autre chose.
Et arrêtons la bourse des valeurs, que c'est un nid de voleurs. C'est la perversion totale du monde. Il faut arrêter la bourse, il faut l'interdire. On ne peut pas faire de l'argent avec de l'argent. Il faut plus que l'argent donne de s'enterrer. Parce que là, il y a tous les pirates, les salauds, ils font avec de l'argent de s'enterrer et les gens crèvent de faim. Donc l'argent ne doit pas faire de s'enterrer, c'est une aberration.
Mais c'est aussi dans l'évangile, je ne sais pas d'où vous.
Oui, mais que c'est ça l'évangile. Je m'en fiche, mais l'évangile est bon, je te dis. C'est un mythe fondateur.
Mais attends, tu sais que dans la Torah, dans les lois de Moïse, comme on les appelle, on n'a pas le droit de faire travailler l'argent, de gagner des intérêts.
Non, la seule religion, c'est l'islam. C'est l'islam, la seule religion, on n'a pas le droit de prendre des intérêts.
Mais c'est dans le Talmud
bon.
Non plus.
Mais c'est bon. Si. Mais Moïse, je me méfie
depuis
un peu.
Depuis pas très longtemps. Hein.
De Moïse, je me méfie un peu.
Il
faut se méfier des juifs.
De Moïse
seulement.
Tu sais, c'est pas parce qu'il était bègue. Et Moïse, qu'il parler. Il était bègue, fait... C'est pas pour ça. Je vais te dire pourquoi. Parce qu'il a dit, une femme, quand elle accouche ou quand elle a sa menstruation, ne peut pas rentrer au temple.
Elle est impure.
Parce qu'elle est impure. Mmh. Si elle accouche d'un homme, elle ne peut pas rentrer au temple, disons 20 jours. Si elle accouche d'une femme, 40 jours impure. C'est-à-dire qu'une femme la fait doublement impure.
Bah oui.
Alors, ce gars-là, c'était un misogyne, donc il n'est pas valable.
Tu rejettes les misogynes en bloc.
Je rejette les misogynes en bloc.
D'accord.
C'est pas possible. Alors, on ne peut pas rejeter la moitié de l'humanité. Alors, comprenons-nous.
Non, mais c'est important.
Tant qu'il y a un président, et pas une présidente, un pape, et pas une papesse, un prophète, et pas une prophétesse à côté, je m'en fiche qu'il fasse l'amour ou pas.
Mais justement, nous, on a le professeur Jean, et on a Marie à côté. Marie est où? Marie. Il est important que ça soit la voix pour l'équilibre de l'émission, parce que les femmes sont essentielles là, dans le sujet du discours. C'est l'élément féminin.
C'est pas qu'elle soit féministe, j'essaye de...
Non, mais tu as raison. Et normalement, sa place est là, elle n'est pas là-bas. Et voilà. Oui.
Il faudrait interdire la bourse aux gens trop riches, en fait.
Non, alors moi j'avais un projet pour la bourse.
Pour que les pauvres jouent à la bourse.
Parce que ton truc radical, ça marche pas, dire on arrête la bourse, ça marche pas.
Non,
moi j'ai proposé, c'est paru dans un journal ce mois-ci, dans Jonas, qui est le Happy Index. Tu sais qu'on fixe les valeurs de... il faut pas fumer, c'est non fumeur, parce que Alessandro supporte pas la fumée de cigarette, donc c'est non fumeur.
Il peut pas parler, s'il y a une cigarette à côté, il parle pas.
Voilà. Donc, dans l'intérêt de l'émission. Dans l'intérêt de l'émission, Marie va éteindre sa cigarette. On a donc, mais c'est pas parce que c'est une fille.
Mais écoute, je suis un peu des femmes et des femmes. Mais aussi, je ne suis pas un amateur du cancer, hein.
Non.
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 Alors, la cigarette donne le cancer.
Mais c'est prouvé.
Alors, ça me fait la peine qu'une jeune fille si belle filme. À moi, ça me fait la peine quand je vois les gens filmer.
Ouais.
Si, c'est la même chose qu'il faut changer les interprétations des évangiles. Il faut arrêter de filmer. Ça suffit.
Je crois que c'est pareil, c'est de la même.
C'est pareil, la même chose. C'est pareil.
Mais il faut arrêter d'arrêter, quoi.
Alors, la bourse.
Non. C'est pas qu'on est incompréhensible, on fait ça par amour. On propose. Jusqu'à un certain point, selon ce que je sais, à risque de me tromper, et si tu veux bien m'écouter.
Le hashish, Alessandro.
Mais écoute, pendant des années, je devais vendre le top à l'Amérique, à 40 ans. Alors pour les vendre, j'ai dit fumer de pas hashish, marijuana, parce que sinon je ne vendais pas mon film. Quand j'allais au théâtre, on faisait le topo, je marchais parmi le public pour arriver à scène, parler avec le public, et on me remplissait les mains de cigarettes de marijuana. C'était un nuage de marijuana, l'Amérique à ce moment-là. Alors on était obligé. Mais il m'a fait, pendant des années, il m'a fait bête et sensuel. Je suis devenu bête, puis bête et sensuel. C'est tout ce qu'il y arrive. Au commencement, c'était la grande découverte, après c'était la bêtise et la sensualité.
C'est pas mal comme programme aussi.
Non, c'est mal, parce qu'il y a des autres choses dans la vie.
La drogue, c'est mal.
Non, c'est, il y a des autres choses, c'est autodestruction. Vérité, c'est que c'est utile. C'est autodétruire n'est pas utile. C'est que c'est bien, c'est vivre minimum 120 années. Ça, oui. Ça, c'est un bon plan. Parce que si on nous donne un lapsus de vie, il faut vivre cette vie, pas la brûler. On ne sait pas pourquoi, mais l'éléphant n'essaye pas de mourir avant son siècle. Un chat, avant 15 années, n'essaye pas de mourir. L'être humain essaye de mourir avant son temps. Pourquoi? Parce que la névrose est dans notre civilisation. Et en pouvant pas détruire les choses, on se détruit soi-même.
Alors, je peux essayer de te vendre mon idée sur la bourse. Tu sais que la bourse, on achète les actions en fonction de la dernière ligne, c'est-à-dire de ce que ça rapporte, une société rapporte, ce qu'elle gagne. Il y a une société qui gagne 100 francs, vaut moins qu'une société qui gagne 1000 francs, qui vaut moins qu'une société qui gagne 10 000, etc. Et il y a que quelques barèmes valables, en fait, pour juger la valeur d'une société, pour fixer sa valeur. C'est ce qu'elle rapporte sur la dernière ligne, sa capacité d'investir, sa capacité, sa solidité, ses actifs, ce qu'elle possède, etc. Et il n'y a aucun jugement humain. C'est-à-dire, c'est comme si c'était des machines où les hommes n'avaient rien à faire. Les hommes étaient juste les esclaves de ces grosses machines que sont les entreprises ou les sociétés, et l'homme ne rentre pas en ligne de compte. Donc, l'idée était de créer le Happy Index et d'essayer de valoriser, de voir est-ce qu'une société apporte du bonheur ou non. Et il se trouve que les rares fois où ça a été essayé en Angleterre, en Allemagne notamment, sur des fonds verts, c'est-à-dire des sociétés qui ont été jugées non pas sur leur rendement, mais sur leur capacité à améliorer l'environnement, ou en tout cas à pas polluer l'environnement, ces sociétés ont pris une valeur terrible en bourse. Elles ont monté beaucoup plus que les autres, simplement grâce à cet indice vert. Et moi je dis qu'il faudrait non seulement un indice vert, écologique, mais un indice de bonheur. Il faudrait que les sociétés apportent le bonheur par les produits qu'elles vendent, par les manières dont elles fabriquent, par les manières dont elles créent des richesses pour les employés et pour le public. Et c'est ça qui devrait être également un indice pour juger de la valeur d'une société, en plus de l'argent.
Actuellement, tu as raison, tu vois, pour la société actuelle. Moi, je parle en pensant aux siècles qui vont venir. Je ne parle pas aujourd'hui, moi, quand je dis qu'il faut finir avec la bourse et l'argent. Je ne suis pas en train de parler aujourd'hui, parce que je suis un être générationnel. Je ne suis pas un être un individu. Je suis humanité. Et j'ai le droit d'avoir un amour pour la humanité qui va venir d'ici un siècle, deux siècles. Il faut se mettre... Aujourd'hui, il faut commencer, aujourd'hui, à finir avec l'argent et à finir tout ça. Pas vite, je ne parle pas de révolution. Les révolutions sont périmées. Nous avons besoin de mutation, pas de révolution. Tu vois? La révolution conduit un pouvoir à un autre pouvoir. Si tu fais un petit essai dans un monde qui est complètement capitalisé, tu fais un essai d'argent vert, il est entouré d'un terrain qui est le contraire. Donc la terre va finir pour l'absorber. Il ne faut pas changer les détails, il faut changer le tout. Comment il faut changer le tout? Par un accord de sailles, par un accord de nations. Il devrait avoir des temples collectifs, par exemple. On devrait commencer par ça. Pas temple catholique, pas temple juif, pas temple bouddhiste, sinon un temple multiple, polyvalent. Encore, pendant qu'on est encore religieux, tu vois, pendant qu'on est encore religieux.
Est-ce que d'un côté on ne sera plus religieux?
Non, on sera mystique, pas religieux. Les religions sont périmées déjà.
C'est quoi la différence?
La différence, c'est que Dieu, ce qu'on appelle Dieu, et toutes les valeurs qu'il y a sont dans nous, dans l'être humain, et pas dehors l'être humain. Ça va s'intérioriser. Les temples, c'est le corps. Et les prêtres, c'est la conscience. Et Dieu, c'est la fleur qu'il y a lumineuse au centre de l'inconscient. Donc les êtres humains vont pouvoir se diriger eux-mêmes par l'amour qu'ils portent aux autres. Ça existe. Cette histoire de que Dieu est mort, qu'il est très méchant, tout ça, ce sont des... Nietzscheanades. Dieu est mort. C'est pas... Comme il y a des Américanades, il y a Nietzscheanades.
Un autre mythologue.
Kafkaïades. Mais c'est fini ce sort d'attitude mentale. On ne peut plus vivre comme ça. Ça suffit. Alors je remercie le ciel avec une grande douleur de tous ces morts qui sont passés. Mais j'espère que ce qui vient d'arriver va nous changer la tête à tous.
Est-ce que, quand tu parles comme ça, avec t'es sur ce que tu dis, etc., les chiens en aboient même dans la rue, on a l'impression que tu as vu tout ça. Quand tu parles de la fleur qui est à l'intérieur de nous,
tu vois, les chiens,
j'ai l'impression que tu parles de quelque chose que tu as vu avec tes yeux.
Je vois, toi. Tu dis, mais les chiens aboient. Et les chiens en anglais, c'est dog. Et dog, à l'envers, c'est God. Et les chiens, c'est Dieu. Alors, quand il parle, Dieu parle. Il aboie. Les plus célèbres koans.
Non, Dieu parle et agit quand on s'efface.
Les plus célèbres koans zen, fait par Joshua, qui avait 120 années, c'est est-ce que le Bouddha a la nature du chien? Et Joshua répond waouh! Ou répond mou. Alors, c'est que le chien a la nature. Est-ce que le chien a la nature de Bouddha?
Waouh!
Ouais. Wow. Il veut dire Bouddha a la nature du chien. C'est-à-dire que chien, individu, et être essentiel, c'est une seule et même chose. Dalai Lama et toi, c'est une seule et même chose. Il s'est réincarné 3000 fois. Tu le fais des révérences. Il devrait te faire des révérences parce que toi aussi tu t'es réincarné 3000 fois comme lui.
Comme nous.
Comme nous, comme tous.
Comme tous.
On est tous des réincarnés. Si la réincarnation existe, ouais. Il n'y a pas de Dalai Lama. Ouais. On est tous des réincarnés. Voilà. Alors, pourquoi aller à écouter? Quand j'écoute le Dalai Lama, je n'écoute pas un religieux, j'écoute un sage.
Oui.
Je veux qu'il me parle de ça. C'est un sage.
Bien sûr.
Et c'est ça que je le demande. Et quand il dit une connerie, comme il le dit, et quand il se fait associer avec Richard Guerre, il dit que s'il fait une connerie, c'est tout. Dalai Lama fait des bêtises autant que moi.
Ben oui.
Et tant que toi.
Ben oui.
Et quand il est un sage, qu'il merveille.
Oui. Ici et maintenant, c'est une radio 95.2 01 45 75 44 44. Alexandre, tu sais qu'on est là jusqu'à 4h du matin.
Non. Bah, mais voilà. Pas moi, je vais fatiguer tous les mondes.
Je crois pas, non. Tu n'as pas répondu à la question, j'ai l'impression que tu as vu.
Écoute, je t'aime beaucoup, je te réponds tout ce que tu veux.
Non, attends.
C'est vrai. Puis je parle avec toi, puis je t'aime.
Est-ce que, également,
oui.
Est-ce que tu as vu ce dont tu parles?
Je vis, écoute, les voir, c'est une métaphore. Parce que dans les choses spirituelles, les yeux biologiques ne comptent pas. On ressent, on sent, on voit pas. À les grands mystiques Ramakrishna, on les demande, est-ce que tu crois en Dieu? Il répond non. On lui dit, comment un sage si grand dit que non? Non. Il dit que je ne crois pas en Dieu parce que je le connais. Alors, les concepts qu'on a, ce sont des connaissances qui nous sont apportées par l'inconscient, par un être essentiel qui est en nous, que c'est l'être transpersonnel, c'est l'être collectif qui parle à travers nous. Ce que je suis en train de parler, c'est parler au nom de l'humanité, d'une fois pour toutes. Il faut se dire, ça suffit. On ne peut plus vivre sur des contes de fées. On ne peut plus dire que Eva est sortie d'une côte d'Adam, que le péché original, comme si Dieu aurait mis dans les jambes d'Adam et d'Ève le péché. Que l'amour c'est le péché, on vient tous du péché original. C'est pas possible. C'est là que commence notre grande catastrophe. Et on continue à jurer dans le tribunal la vérité sur cette compte de fait. C'est pas possible.
Ouais, mais enfin, quand même, quand Ève étend la pomme à Adam et
quelle
tout
pomme?
Ça. Dans l'histoire, dans le conte de fées, là, étant on dit c'est le démon, c'est le diable, voilà. Etc. Mais en fait, en même temps, c'est le fruit de l'arbre de la connaissance. Ça veut dire que l'homme commence son parcours vers la connaissance.
Grâce à la femme.
Grâce à la femme.
Dans l'évangile aussi.
Et chez les bouddhistes, on dit que la femme est la mère de la sagesse.
Oui, et dans l'évangile aussi.
Mais quand on dit chez les judéo-chrétiens que la femme donne la pomme à l'homme, c'est l'arbre de la connaissance, c'est aussi la mère de la sagesse. C'est elle qui apporte la sagesse sur la terre et dans les mains de l'homme par ce fruit. Et simplement, il y en a un qui dit c'est la mère de la sagesse, et l'autre qui dit c'est le démon. Donc c'est une question de mots. C'est la même fonction.
Je dis choisi, vérité, c'est que tout dit. Moi, je pense que celui qui a donné la pomme à Adam, c'est cet impensable qu'on appelle Dieu, qui est toujours amoureux de la femme. Eva, c'est Marie. Marie, c'est la première à faire que le Christ réalise un miracle dans les noces de Canaan. Il dit, c'est pas Monet, Monet n'est pas arrivé femme, le dit le Christ. Marie dit, non, fais le miracle. Et il fait son premier miracle, c'est elle qui le lance à l'action. Et d'elle, Dieu devient amoureux, parce qu'il rentre dans son ventre, tu vois, il la possède, Dieu est amoureux de la femme, de Marie, qui est la plus belle femme qui a créé l'univers. La même chose dans les jardins. Là, il rentre, le serpent, ce n'est qu'un autre aspect de la divinité. Hein? Alors, il y a, quand Adam et Ève sont expulsés du paradis, Dieu les recouvre de peau. La peau merveilleuse, ouais. Qu'il est bon. Mais tu te demandes, d'où sort ces peaux? Il y a des peaux. Et les animaux ne meurent pas encore. L'unique animal qui change de peau, c'est le serpent. Donc, il les recouvre avec la peau d'un serpent et l'autre serpent. L'autre serpent, c'est la femelle de cet serpent. Alors, pendant que Adam était en train de jouer avec la femelle serpent, Eva jouait avec le serpent mâle. Et c'est lui qui lui donne la pomme, il la possède. Et va faire la même chose que quand Dieu possède Marie. Il la possède, il lui donne l'intelligence, l'esprit. Il lui donne. C'est formidable. C'est comme ça la chose. Il faut interpréter les livres comme ça. C'est vrai ou pas vrai, ça m'est égal. Mais je préfère cette interprétation à quel que c'est le péché original. Bien, comme si c'était un péché, qu'a fait l'amour. Mais mon Dieu, dans quel monde on vit?
Ça, c'est un système sectaire. C'est-à-dire qu'on maintient les hommes en esclavage parce qu'ils ont péché, ils ont fauté, ils sont coupables, donc ils doivent se plier devant le pouvoir divin, etc.
Tout ça,
c'est du fascisme.
Mais ça, c'est pas l'amour de Dieu. Simplement, il faut changer les interprétations des livres sacrés, ça suffit. Le Coran doit être changé, pas le Coran, sinon l'interprétation qu'on fait. Parce que sinon, ça va produire des criminels. Alors, tout le monde maintenant va comprendre en islam que c'est pas bien créer des terroristes, parce que ça tombe sur eux aussi.
C'est clair. Et mais en tout cas, les coiffeurs, ils ont fait un gros chiffre d'affaires là, ces derniers jours à Kaboul. Radio ici maintenant, nous avons Michel en ligne. Allô.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Michel.
Voilà, je vais me permettre de vous demander si je peux intervenir sur trois points, moi assez rapidement.
Allez-y, rapidement.
Merci. Alors voilà, j'entends que Dieu est à l'intérieur de chacun de nous. Alors, il n'y a plus de Dieu qui dirige le monde, il n'y a plus de Dieu qui nous reçoit après la mort, nous nous partageons Dieu, et puis il n'y a plus rien à l'extérieur, et il y a même des dieux criminels, puisque il y a des gens qui tuent. Ça, c'est la première question. La seconde, la réincarnation.
Excuse-moi Michel, est-ce que
alors,
tu veux répondre à la première?
Oui.
D'accord.
La première.
Écoute, mon plus grand progrès, c'est quand j'ai éliminé l'au-delà. À Maître Zen, on le dit. Maître, qu'est-ce qu'il y a après la mort? Et le maître répond, je ne sais pas, encore, je ne suis pas mort. Ce qu'il y aura, il y aura. Je ne peux pas vivre en pensant qu'il y a un au-delà. C'est ça qui a créé les martyrs qui sont tués, qui ont donné sa vie pour un paradis. Non, il n'y a pas au-delà. Il faut être assez courageux pour se dire, on n'a que cette vie. Et le paradis sera ici. S'il y a Dieu, il sera ici. C'est ici qu'on va le réaliser. Alors, ceux qui tuent, ce sont oubliés qui ont le Dieu intérieur. Ils ne le voient pas. Ils vivent dans son ego. Ils vivent en dehors de son Dieu intérieur. Le Dieu intérieur, il faut le percer de la même façon qu'on perce pour trouver le pétrole. Il faut y arriver jusqu'à arriver à le trouver à l'intérieur de soi. Au fond, il faut se laisser trouver par ce désir qu'on a à l'intérieur de nous.
Michel,
il cherche.
Michel.
Oui, mais on a un souffle de Dieu, c'est notre âme.
On a quoi?
Mais quand vous me dites qu'il n'y a pas de dehors...
Un souffle de Dieu.
Pardon?
Kouhala, un souffle de Dieu.
Ma chère amie, tu n'as pas un souffle de Dieu, c'est Madame qui l'a. Quand Dieu crée l'homme d'argile, il le souffle dans les nez, rouage.
Voilà.
C'est l'homme qui a le souffle. Ouais. La femme n'a pas le souffle. Parce que la femme est née d'Adam, qui avait déjà le souffle, elle est née de l'esprit d'Adam. Donc la femme a le souffle de l'homme, l'homme parfait. Selon la Bible, je t'ai dit ta religion.
Attendez, tu dis amalgame comme ça, je ne peux pas laisser passer. Excusez-moi. Parce que
religion,
qui est née de la côte d'Adam, c'est la première femme, mais chaque femme qui naît après...
T'es apparente d'être née d'une côte?
Non, c'est la première femme seulement. Mais vous n'allez pas me dire que je suis née de la côte de mon frère ou de mon père.
Pourquoi pas? C'est la femme générique. On est en train de parler du mythe. Toi, tu n'es pas née de la côte, ni de rien.
Bon, en tout cas, je suis heureuse de vous avoir entendu dire, nous n'avons qu'une seule vie.
Oui.
Et il y a un au-delà, monsieur. Pourquoi? Parce que moi, j'ai des rêves de mes parents qui sont morts, qui m'apportent des nouvelles qui se réalise un mois après, dans une précision absolument inimaginable, je peux vous apporter des preuves tangibles qu'il y a un au-delà et que tous ceux qui sont morts savent tout ce qui se passe pour vous et autour de vous mille fois mieux que vous-même, monsieur. Alors, moi, j'ai des preuves tangibles.
Réaction, preuve tangible.
Je ne suis pas, Michel, je ne suis pas là pour l'enlever et l'espoir à quelqu'un. Non, c'est quoi ça, c'est quoi ça.
Moi, je vous apporte des preuves, mais vous,
je vous dirai une chose.
Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas d'au-delà. Il y a un au-delà, et ça, j'en suis sûr.
Je vous dis où est l'au-delà.
Alors, la règle.
Attends, Michel. C'est le deuxième point.
Non, c'est pas le chapitre.
Non, mais on a décidé de faire point par point.
On va échelonner, non? Nous avons un inconscient individuel qui s'expand vers un inconscient familier, qui s'expand vers un inconscient social, qui s'expand vers un inconscient historique et qui s'expand vers un inconscient cosmique. Dans notre inconscient, n'est-ce pas, nous avons des représentations de tous les êtres aimés. Ils sont là. Ça s'appelle la région des morts. Ils sont à l'intérieur de nous. Qu'ils soient réels ou pas, je ne sais pas. Mais l'au-delà est dans nous aussi. De la même façon que Dieu est dans nous, l'au-delà est dans nous. C'est pas au-delà, c'est au-dedans, l'au-delà. Si vous pensez ça, ça va servir beaucoup parce que vous portez tout votre mort dedans vous. Et pas seulement vos morts, sinon les autres morts, les morts célèbres, les morts inconnus, les morts de l'histoire, tout le monde est dans notre inconscient. Et vous pouvez parler à travers les rêves avec toutes ces personnes-là. C'est une manifestation de l'inconscient collectif.
Mais attendez, comment pourrait-il savoir ce qui va se passer chez moi dans un mois et des choses graves même?
J'ai dit ça, j'ai dit qu'il faut faire attention avec les voyants, mais je ne vais pas vous enlever votre espoir, parce que ça vous
non, il ne s'agit pas de voyants, il s'agit
vous
de
la vivre.
Pardon.
Si ça vous aide à vivre ce que vous pensez, je ne vais pas me mettre là. Mais permettez-moi que vous dise que je pense jusqu'à un certain point, à risque de me tromper si vous le voulez bien.
Bon, enfin,
c'est mes idées, n'est-ce pas?
J'ai des éléments qui me permettent de croire qu'ils sont vivants.
Mais l'inconscient fait des programmations. Il y a des personnes qui disent, tu demandes à une personne, à quel âge tu vas mourir? Il y a un qui va te dire, je vais mourir à 40, je vais mourir à 60. Mon père, je lui demandais à mon père, à quel âge tu vas mourir? Il m'a dit, à 66. Et pourquoi? Parce que ma mère est morte à 66, mon père aussi. Ah, donc tu te programmes à mourir comme tes parents. Change ton programme. Alors, j'ai fait un travail de méditation. Il a changé ton programme, il dit, tu serais heureux de mourir à quel âge? Un siècle, il m'a dit. D'accord. Il s'est programmé, il vient de mourir, il avait un siècle. Donc, il a changé sa programmation. Quand je rêve à l'intérieur de moi, c'est ma volonté qui me produit ce rêve-là, et c'est ma volonté qui produit ce qui va arriver dans le futur. Le futur n'existe pas, on le produit. Mais je pense à mes bourres, restez avec vos idées, ne les changez pas, s'il vous plaît, parce que ça vous rend heureux et tranquille.
Troisième point, Michel.
Bon, alors, deuxième point, la réincarnation. Alors, je pense qu'il y a une résurrection. Pourquoi? Parce que dans le monde bouddhique, je pense que vous êtes bouddhique, ou en tout cas du monde asiatique, enfin, vous avez une conception du monde asiatique, pardon, dans le monde bouddhique, on ne connaissait pas Dieu. Or, quand une personne meurt, elle ne peut pas aller au-delà du sublunaire, parce que le monde s'arrête sous le ciel visible. Alors, par l'effet de la pesanteur, elle est obligée de revenir vers...
Ce sont que des lettres. Ah, je peux dire, on a les Pinocchio, il reste Geppetto et il reste Pepe Grillo.
Mais c'est la même chose.
Pensez avec des mots, c'est inutile. Ça n'éprouve rien. La cabale n'éprouve rien. Ce sont que des jeux de mots. Ça
non,
suffit.
Mais attendez, comment n'éprouve rien quand vous avez enlevé le A, qui est un élément extrêmement important?
Mais vous avez, pourquoi ce serait extrêmement important un A? Ça suffit. Ce sont des contes de fées. Là, c'est un conte de fées.
Le zen n'est pas un conte de fées. C'est très bien. Continuez comme ça. Bon. Et ensuite, je finis avec la troisième question.
Michel est persuadé que tu es zen. Tu es un maître zen.
Voilà. Il est dans le monde sublunaire. Il n'a pas encore connu la révélation et puis le monde exponentiel qui arrive après le ciel.
Ouais.
C'est dommage. Bon. Maintenant, j'ai été très choquée par l'animateur.
Michel,
pardon.
Vas-y, c'est moi l'animateur. Je t'écoute, Michel.
Alors, j'ai été très choquée par l'animateur quand, bien sûr, avec humour, il a dit, faut se méfier des juifs.
Oui, mais alors là, c'était vraiment avec humour, hein, Michel, parce que tu sais, je suis juif moi-même, alors je me le permets.
D'accord, mais de toute façon,
les juifs ont cet avantage sur les autres de pouvoir se moquer d'eux-mêmes.
Mais moi,
quand un non-juif, attends, Alessandro, quand un non-juif se moque d'un juif, c'est de l'antisémitisme. Quand un juif se moque d'un juif, c'est de l'humour.
Moi, j'ai été juif.
Jusqu'à
17 ans.
Ouais, toi, t'as été juif.
Tu sais pourquoi les juifs sont la kippa?
Non.
Pour équilibrer les pépites qui manquent.
J'ai entendu que Moïse avait interdit aux femmes qui étaient en couche ou qui avaient leur menstrue de rentrer au temple. Est-ce que vous avez réfléchi d'abord pourquoi avant de le condamner?
Non, mais le problème, c'est pas ça, c'est que les filles, c'est 40 jours, et les garçons, c'est 20 jours.
Oui, mais parce que c'est un placentas, c'est-à-dire c'est la mort, et qu'on ne peut pas rentrer dans un temple, encore moins dans une synagogue.
Mais pourquoi les filles, c'est 40 jours, et les garçons, 20 jours? Quand une mère accouche d'un fils, c'est 20 jours impurs, et elle accouche d'une fille, c'est 40 jours impurs.
Pourquoi?
Mais parce que c'est un côté physiologique qui vous échappe. Ah et bon. Que nous devons observer.
Permettez-moi. Pourquoi on permet aux juifs et aux rabbins d'entrer au temple quand ils ont des hémorroïdes?
Mais c'est pas la mort des hémorroïdes.
Ah oui, mais c'est du sang.
Mais ils n'ont pas de sang.
Mais oui, les hémorroïdes produisent du sang.
C'est un organe qui est gonflé, mais c'est tout.
Non, ça produit du sang, je peux vous dire, parce qu'il y a des hémorroïdes.
Je crois que vous faites un amalgame. C'est-à-dire.
Mais c'est parce que c'est pas tous les 40 jours, les hémorroïdes.
Femme a ses menstrues.
C'est-à-dire que
n'ayant pas été fécondé, eh bien, c'est la mort. C'est pas parce que c'est du sang. C'est parce que cet œuf n'a pas donné la vie. Il est mort. Or, dans la religion juive, on sépare d'une façon incroyable la mort de la vie. Moi, quand je rentre dans une église et que je vois qu'on porte des cercueils dans l'endroit où on doit prédire la vie, je suis horripilée. Et un jour, j'ai trouvé une plaque dans une église, j'ai pas voulu marcher dessus, j'ai dit qu'il y a une plaque, il y a un monsieur qui m'a dit, là-dessous, il doit y avoir 1000 tombes. Mais attendez, comment dans une église, on apporte la mort?
Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'il ne faut pas lutter contre une autre religion. De nouveau, on va à la guerre. Le Christ, quand il est crucifié, n'est-ce pas, il sait, derrière il y a le Père, il sait qu'il ne va pas mourir. C'est toute une mascarade, il sait, il souffre, mais il a de la douleur, mais il ne souffre pas. Et derrière, il y a Jéhovah qui rigole parce qu'il sait qu'il va renaître. Quand le Christ est crucifié, c'est l'être humain qui se donne au sacrifice de l'ego. Après, il renaît, trois jours après, comme un être de lumière. L'église, c'est l'endroit où on va sacrifier l'ego. On va tout donner, et quand on sort de l'église, on devient un être de lumière si on a tout sacrifié. C'est un temple où on sacrifie ce qui est en plus. Alors c'est bon aussi. Le Christ crucifié, c'est un passage du Christ illuminé. C'est un passage. Plus tard, quand l'humanité changera, tous les temples chrétiens seront des temples de lumière. Il n'y aura plus de crucifixion. Maintenant, on est dans la période de la crucifixion. Ça peut, tu vois, on doit comprendre toutes les religions.
Et Alessandro, le Messie, alors, le Messie attendu par les Juifs, ce fameux Messie, le Mashiach, qu'est-ce que tu en penses?
Le Messie va nous apporter la vraie explication de la Torah. Parce qu'il y a eu des interprétations, c'est vrai, mais c'est ce qui nous tient debout, heureusement, parce que tout se serait écroulé sans ces interprétations. Et comment se fait-il? Alors, vous avez oublié un élément important, s'il vous plaît. Quand on a traduit la Bible en grec, les 70, on a réuni 70 rabbins dans des endroits différents, donc ils ne communiquaient pas du tout. Comment se fait-il qu'ils ont traduit les 70 de la même façon, la Bible? Ça, c'est quand même étonnant.
Il y a 70 rabbins qu'on traduit dans des endroits séparés de même façon la Bible.
Tu sais, il y a quelque chose qu'il faut éclaircir aussi à Michel-Angelo quand il fait la Pietà de Christ, que c'est une image du Christ dans les bras de la Vierge. Il faut changer ça parce que qui prend le Christ de la croix? C'est Saint-Joseph d'Arimathie. C'est une image du Père. Christ est né d'une femme et il mort dans les bras du Père. Il naît dans la mer, mais mort dans les bras du Père, pas dans les bras de la mer. Donc il faut se rendre compte aussi de ce genre de choses. Sont très belles. Bon, mais parfois, une autre chose, parce que je ne vais pas passer ma nuit à discuter.
Ok, Michel. Voilà. Merci à toi.
Je vous remercie.
Bah écoute, c'est intéressant. On a eu l'exemple de ce que tu disais avant sur les structures mentales figées qui s'appuient sur notre mythologie, nos mythologies.
Mais oui.
Qui devraient être des sources de remise en question et qui sont des sources de certitude.
C'est la même erreur de Platon. Platon discute avec tous les sages. Et quand il veut prouver quelque chose, il dit « la mythologie dit ». Et comme la mythologie dit, ça c'est la vérité, donc la vérité c'est ça. Les kabbalistes c'est la même chose. La kabbale, en plus la kabbale n'existe pas, c'est un système, c'est pas un livre. Donc on dit, la Torah a dit ça. Donc, c'est ça la vérité, parce que la Torah a dit. Mais la Torah n'a rien dit, la Torah est ambiguë, je l'interprète comme je veux. Le grand génie, Wagnin, qui a écrit le livre Brûlé, qui c'est un rabbin, passe une journée entière à interpréter la Bible à la lumière de la philosophie française, de Levinas. Maintenant, ses interprétations sont philosophiques, il applique la philosophie française à la Bible. Pourquoi? Parce qu'il a étudié la philosophie. S'il aurait étudié la médecine, il appliquerait la médecine. Mais on fait dire au livre sacré ce qu'on veut.
C'est un miroir.
À une blague, on fait dire ce qu'on veut. Tu vois? Je te raconte une blague et après ça va venir mystique. Il y a un ivrogne qui se trouve une bouteille, l'ouvre, un génie sort. Le génie lui dit, tu m'as libéré, qu'est-ce que tu veux? Je te donne deux désirs. Il dit, un désir, un. Il veut une bouteille pleine de vin qui ne finit jamais. Il le fait la bouteille, il boit, et ne finit jamais. Il lui dit, maintenant le deuxième désir, est-ce que tu peux me donner une autre petite bouteille comme ça? Demain, une autre bouteille infinie. Résumément, l'appel, la demande est infinie. On n'est jamais satisfait. Il y a deux prêtres, un qui est content, l'autre qui est souriant. Et celui qui est triste, le dit, je ne sais pas, on prie pareil. Et regarde comment est la différence. Alors celui qui le dit, est-ce que toi tu pries pour demander, et moi j'ai pris pour dire merci, c'est tout. Alors, on est à la demande, parce qu'on est enfantin. On demande l'argent, on demande la reconnaissance, on demande l'au-delà, on demande une vie éternelle, on demande un prix, mais on ne donne rien. Alors quand on commence à donner, on dit, on n'a que cette vie pour donner, n'a pas une autre, j'arrête la demande et je commence à donner. J'arrête de dire qu'on m'aime, je commence à aimer. Le monde va mal, je ne peux pas l'arranger, mais je peux commencer à l'arranger.
You know, I could change your life. Really, I could if you would just let me in the door.
Et maintenant tout est possible, c'est même une radio, il est minuit 15, 01 45 75 44 44.